Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Damien Le Guay.
Nathalie Nick, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue. Nous avons reçu dernièrement autour de votre livre donc de la visibilité et vous avez par ailleurs écrit en 2007 un livre donc sur Pierre Bourdieu qui s'appelle Pourquoi Pierre Bourdieu, qui est un livre d'admiration critique sur votre maître qui l'a été
ancien maître.
Votre maître qui l'a été pendant longtemps et qui ne l'est plus. Et donc ce livre-là est un livre où vous désapprenez Bourdieu, où vous désenvoûtez d'une certaine façon de lui. Et je voudrais profiter de votre présence et de ce livre-là pour vous interroger un peu autour de la question de la pensée 68. Pour le faire vite, pensée 68 laisse à supposer que le sujet, loin d'être autonome, libre, conscient de ses choix comme on pensait qu'il l'était, que ce sujet donc est en fait déterminé par des instances, par des principes qui le maîtrisent. Donc il n'est pas acteur, il est agi. Et donc, parmi ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, développé ces questions-là, donc cet agissement, cette manière d'agir sur un individu qui n'a pas conscience d'être agi par autre chose que par lui-même, Pierre Bourdieu donc a développé, et je voudrais qu'on reprenne ça pour après glisser, si ça vous va, sur les questions de déconstruction, sur deux phénomènes qu'il a indiqués, donc la domination d'une part et la reproduction d'autre part. Est-ce que vous pouvez juste nous dire rapidement, un, ce que ces deux concepts-là disent pour lui, et vous qui vous êtes désenvoûté de Pierre Bourdieu, ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui?
Oui, alors je vais peut-être commencer par la reproduction, puisque la reproduction est en droite ligne de ce problème qui a été mis en avant par ce mot de pensée 68, bon, qui a été très critiqué, mais enfin, on va pas y revenir aujourd'hui. Bon, cette idée de la reproduction sociale, c'est-à-dire que les individus ne sont pas libres et autodéterminés, mais que, au contraire, ils vivent dans des mondes sociaux très précis, qui sont les mondes dont ils ont hérité, et qu'avec ces mondes, ils héritent de propriétés qui leur viennent de leurs parents et de leur famille, avec un certain type de capital économique, mais aussi un certain type de capital culturel, un certain type de capital social, et ce que Bourdieu appelle l'habitus, c'est-à-dire la façon dont l'individu incorpore des façons d'être, ou de parler, ou de manger, etc. Ce qu'il appelle également l'éthos, c'est-à-dire la façon dont l'individu incorpore des valeurs, notamment des valeurs morales. Et ce qu'il appelle l'exis, c'est-à-dire la façon dont l'apparence de l'individu est elle aussi complètement construite par son affiliation avec un milieu social. Bon, alors c'est une idée qui aujourd'hui nous paraît assez évidente, mais c'est grâce à Pierre Bourdieu qu'elle nous paraît évidente, puisque lorsqu'il a mis en avant, grâce à des analyses statistiques, cette forte prégnance de la reproduction sociale, ça a posé des tas de problèmes, parce que toutes sortes de gens se sont dit, mais d'abord, on s'en était pas rendu compte, bon. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait de la liberté individuelle, hein? Ça pose évidemment un problème philosophique, éthique, sur la question de la liberté et de la responsabilité. Moi, je trouve que c'est une fausse question qui est très mal posée, parce qu'elle est posée en termes que j'appelle logicistes, c'est-à-dire de catégories discontinues, où il faudrait choisir entre d'un côté A et de l'autre côté non-A. Donc A serait la liberté, et puis non-A serait la reproduction sociale. Bon, ce que je trouve complètement stupide, puisque bien évidemment, notre expérience est faite des deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, nous héritons de propriétés qui nous viennent de notre milieu social, c'est évident. Et d'un autre côté, nous avons quand même des espaces d'autonomie à l'intérieur de ce cadre qui nous est donné. Donc je ne vois pas en quoi il y a antinomie, et ça me paraît être une fausse question.
Mais ça laissait supposer donc que la culture était une des modalités de la reproduction sociale.
Bien sûr.
Qu'il fallait, pour Pierre Bourdieu et ou pour ses successeurs, détruire, déconstruire, aménager les sphères de la scolarité pour éviter que cette reproduction s'opère.
Alors donc cette idée de la reproduction de la culture aller bien sûr à l'encontre de toute une conception traditionnelle, un petit peu idéaliste, de la culture comme au lieu de l'individualité. Bon. Donc ça a été mis à mal par La Distinction, qui a été le premier livre vraiment célèbre de Bourdieu qui met en avant cette question de la reproduction sociale. Donc, en effet, en mettant en évidence cette prégnance de la reproduction sociale, et notamment grâce à la mise en évidence de l'inégalité d'accès à la culture scolaire et à l'université, Bourdieu ouvrait la voie à de possibles réformes dans le sens d'une plus grande égalité des chances. Bon, il y a plusieurs façons d'aller à l'encontre de ce phénomène. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que Bourdieu a beaucoup insisté sur la reproduction sociale et donc l'inégalité, mais il a tendance, me semble-t-il, ou en tout cas les gens qui l'utilisent ont tendance à en faire un phénomène absolu, comme si aucun enfant issu des milieux populaires ne pouvait accéder à la culture légitime, pour reprendre les termes de Bourdieu, ce qui est faux. On a toutes sortes d'enfants dont on sait très bien que grâce à l'école, ils ont pu échapper à leur destin initial. Donc je crois que le premier piège consiste à transformer une tendance en phénomène absolu. Et c'est un piège redoutable, parce que c'est un piège qui amène les éducateurs et les enfants à renoncer, en se disant « je suis issu d'un milieu populaire, donc je n'ai aucune chance, donc c'est même pas la peine d'essayer ». Donc ça c'est, je crois, un premier effet pervers d'une vulgarisation de la pensée de Bourdieu, qui a été très très mal comprise, en grande partie par la faute de Bourdieu, qui a tellement insisté sur une critique de la domination, à partir de cette mise en évidence de la reproduction sociale, qu'il a eu tendance à surestimer, bien sûr, cet effet de reproduction, et à dénoncer de façon tellement unilatérale la domination scolaire qu'on a pu avoir l'impression qu'il n'y avait que ça. Bon, moi j'ai toujours envie de dire, comparé avec ce qui se passait avant Jules Ferry. Bon, on peut trouver que l'école ne remplit pas assez son objectif de démocratisation, mais elle remplit quand même en partie cet objectif, et elle le remplit de façon autrement plus satisfaisante que ne l'était la situation avant qu'on invente l'école gratuite, laïque et obligatoire. Donc, face à ce constat de l'inégalité devant l'école, on peut avoir deux propositions pour la réformer. L'une, et c'est malheureusement à mon avis celle qui a été suivie par beaucoup de disciples et de suiveurs de Bourdieu, qui consiste à dire, pour éliminer les inégalités, il faut les éradiquer, c'est-à-dire qu'il faut éraser toute chose et abaisser le niveau pour qu'il n'y ait plus d'inégalité dans l'accès à l'excellence scolaire. Bon, et malheureusement, je pense que le système du collège unique est vraiment la conséquence de ce raisonnement, avec des effets pervers considérables dont nous payons les frais aujourd'hui. Une autre voie est possible, c'est celle qui consiste au contraire, si on peut dire, à renforcer les inégalités en faisant de l'intensification du soutien scolaire à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire en démultipliant les modalités de présence à l'école et les façons de s'orienter dans le système scolaire, de façon à ce que aux plus démunis soit donné beaucoup plus. Et c'est donc une inégalité apparente, mais qui vient corriger l'inégalité fondamentale de départ. Et je crois que c'est la voie qui mérite d'être suivie, mais qui implique au contraire une extrême différenciation des parcours scolaires, au lieu de cette égalisation de surface qu'on a eue avec le collège unique, qui n'aboutit qu'à renforcer les inégalités de départ. Donc là, je crois qu'il y a eu vraiment une mal-donne, qui est un problème générationnel considérable.
Mais cette deuxième voie que vous indiquez était, vous m'en prenez si je me trompe, mais celle des boursiers d'autrefois, et qu'il est à supposer que, par exemple, le petit Camus, qui était d'un milieu très modeste, repéré par son instituteur, pouvait effectivement accéder au lycée, puis après...
Oui, alors bien sûr que le système des bourses est là pour compenser les inégalités de départ, mais aujourd'hui, il faut prendre les choses beaucoup plus en amont. On n'est plus dans des collégiens méritants qu'il faut aider à aller au lycée ou dans des lycéens méritants qu'il faut aider à aller à l'université. On est dans des accédants à la lecture qui ne sont pas de culture familiale française, qui donc ont un handicap énorme simplement pour accéder à l'apprentissage de la lecture. Et c'est à ce niveau-là, bien sûr, qu'il faut faire un énorme effort de soutien au lieu d'estimer que tout le monde doit être égal et que donc on va en apprendre le moins possible pour compenser ces inégalités de départ.
Alors, je voudrais qu'on élargisse un tout petit peu donc pour finir notre débat. Et je renvoie donc à un petit article, enfin un tout petit article que vous avez fait paraître donc dans le numéro du débat qui célébrait les 30 ans de la revue Le Débat. Et petit article donc qui s'appelle « Construction sociale ». Et dans cet article-là, vous notiez trois points, trois problèmes de cette déconstruction sociale. Alors, je vous les cite et puis vous me dites après comment est-ce que vous concevez effectivement ces problèmes, ces trois problèmes-là d'une part, et s'il faut, d'une certaine façon, déconstruire la déconstruction sociale. Alors, trois problèmes. Un, donc, d'une conception du monde, la déconstruction sociale est devenue une idéologie. Deuxième problématique que vous indiquiez, donc, prétendre que tout est socialement construit, c'est réduire l'expérience à une seule et unique dimension. Et troisième problématique, cette certitude qui se veut anti-naturaliste demeure profondément naturaliste, en ceci qu'elle sous-entend l'artifice du monde vécu, et donc une forme de naturalisme inversé. Alors, est-ce que vous pouvez mieux nous faire comprendre ces trois points ?
Alors, bon, d'abord sur la question de la banalisation, hein, de cette révélation qu'a été dans l'après-guerre, l'idée que notre monde que nous croyons donné de façon naturelle est en fait construit par des éléments purement sociaux, des institutions, le langage, etc. etc. Bon. Donc ça a été vraiment la grande tendance hein, dans les sciences sociales de l'après-guerre, qu'a incarné notamment François-Pierre Bourdieu, mais pas seulement lui, il y a d'autres aussi, et qui a essaimé aux États-Unis dans ce qu'on appelle les cultural studies. Donc c'est devenu la grande mode sur les campus.
La French Theory, voilà, qui est partie
tout à fait,
qui est revenue.
Tout à fait. Alors il faut quand même être un peu prudent. C'est une grande mode sur les campus. C'est une grande mode universitaire. Le citoyen ordinaire se fiche complètement de la question de la construction sociale, n'en a probablement jamais entendu parler, et peut-être qu'il vaut mieux. Mais enfin bon, voilà. Donc c'est une banalité, c'est devenu une banalité dans les campus. Ce qui est un peu gênant, c'est de voir cette banalité assénée comme une sorte d'évidence quasi théologique, de vérité profonde qu'il faudrait
promouvoir
un peu comme une sorte de nouvelle parole prophétique. Bon. Et de la voir donc devenir une forme de slogan. Et ce qui me gêne dans ce genre de slogan, c'est qu'ils deviennent non plus des moments de vérité qui nous permettent de voir certaines choses que nous ne voyons pas auparavant, mais ils deviennent des sortes de soutien à des groupes idéologiques qui vont se constituer autour de cette idée qu'il faut défendre la notion de socialement construit et qui vont devenir plutôt des empêcheurs de penser, puisque les gens qui vont soutenir cette idée-là ne vont passer leur temps à essayer de démontrer que tout est socialement construit, ce qui est évidemment une façon un petit peu étroite de voir les choses. Alors justement, deuxième problème, tout est socialement construit, c'est faux. Alors là, pour le coup, c'est une grosse bêtise. Une grande partie de notre monde, bien sûr, est socialement construit, mais de façon inégale. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de notre vie qui nous viennent, disons de la nature, en tout cas de constantes biologiques. Nous avons un corps, nous avons toutes sortes d'éléments que nous ne construisons pas. Et puis sur cette base qui est en grande partie constituée par des phénomènes naturels que nous ne maîtrisons pas, il y a toute une façon de les modeler, de les vivre, de les instituer, etc., qui fait que notre expérience est faite d'un mélange de choses qui sont des données de la nature et des données de la culture. Et vouloir réduire notre expérience à l'un ou l'autre pôle est une absolue bêtise. Bon, et on le voit notamment dans ce qu'on appelle les gender studies, hein, les études féministes, qui là encore sont devenues extrêmement populaires outre-Atlantique, assener à longueur de temps que la différence des sexes est un phénomène purement social et socialement construit est une grosse bêtise, parce que bien évidemment la différence des sexes a aussi rapport avec des données biologiques et avec des données culturelles. C'est les deux. Vouloir réduire à l'un d'eux, c'est faire de l'idéologie et non pas produire du savoir. Puis troisième élément, cette idée que en mettant en avant l'idée que notre monde est socialement construit, nous irions dans le sens d'une disqualification de l'élément naturel et que nous montrions que tout cela n'étant pas naturel, tout cela étant donc artificiel, peut se modifier à volonté. C'est là-dessus que beaucoup de féministes construisent leur rapport au féminisme en se disant ben, « si on montre que la différence des sexes n'est pas une donnée de nature mais une donnée de culture », et bien à ce moment-là, on pourra dire que la domination masculine peut parfaitement se modifier et qu'elle n'est pas une sorte de destin ou de fatalité. C'est là encore une très grosse bêtise, parce que croire qu'une chose peut se modifier parce qu'elle est sociale et non pas naturelle, c'est n'avoir rien compris à ce qu'est une société. Il est beaucoup plus difficile de modifier des données sociales que de modifier des données de nature. Dans notre monde humain, notre expérience, elle est faite avant tout de données sociales, elle est faite d'institutions, elle est faite de langage, elle est faite de règles de parenté, elle est faite de toutes sortes de choses qui relèvent du social, mais c'est pas parce que ça relève du social que ça relève de la liberté individuelle. Les gens qui croient naïvement que ce qui ne serait pas naturel et donc social serait facile à modifier sont des gens qui idéalisent le naturel, croyant que tout ce qui est nécessaire vient uniquement et nécessairement de la nature, alors que tout ce qui serait social serait arbitraire. C'est une conception archaïquement et stupidement naturaliste, comme si la nature était ce qui nous donnait la raison d'être, la nécessité de notre vie. Ça n'est pas vrai, nous sommes des humains, c'est la culture et la société qui nous construit. Et du même coup, croire qu'en éliminant la dimension naturelle de notre vie, nous arriverions à quelque chose qui serait moins nécessaire et donc plus modifiable, c'est simplement ne pas voir que, encore une fois, la société est ce qui est le plus difficile de modifier. On le voit bien chaque fois qu'on essaye de réformer les choses.
Écoutez, Nathalie Hennick, merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup de bien de vous entendre comme ça, parce qu'effectivement, contrairement à ce que vous dites, il me semble que toutes ces idéologies-là sont quand même extrêmement présentes, même si elles ne le sont pas de façon aussi élaborée que certains le font dans les campus. Enfin, qu'il y a une vulgate, comme toujours, qui s'impose de façon massive. Et vous avez évoqué effectivement la question des gender studies et effectivement de l'idée que la sexualité prend le pas sur la différence sexuelle. Et je renvoie nos auditeurs à un débat que nous avons avec Mona Ouzou sur cette même question, elle qui a été effectivement récemment attaquée pour avoir eu, entre guillemets, des complaisances pour avoir défendu la galanterie. Donc je renvoie nos auditeurs donc au livre que nous avons évoqué avec vous dans un précédent entretien qui s'appelle « De la visibilité » et à cet autre que nous avons juste évoqué de vous-même, donc, qui s'appelle « Pourquoi Bourdieu ?», qui est paru donc chez Gallimard en 2007. Nathalie Hennick, merci.
Merci beaucoup.